CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les places que doivent occuper les chrétiens dans notre société. Bon lundi à tous.
Bon lundi,
Yveline.
Avez-vous passé un bon week-end?
Eh ben oui.
Eh ben oui. Ah oui, carrément. Oui. Oui. Ah ben ça, ça fait
excellent
plaisir,
week-end.
Tu vois.
Oui.
Des bons week-ends, on aime ça.
Dans mon église, c'est toujours bien.
Oh.
Mais dans l'église des autres aussi.
Mais je ne suis pas, donc je ne peux pas vous dire ce que je connais. Dans la même que moi.
Hein.
Apparemment,
jusqu'à présent, oui.
Vous n'avez pas passé le même week-end.
Si. Il y a quelques temps, c'est ma femme qui a prêché. Là, c'est encore mieux.
Ah ben oui, c'est sûr. Aujourd'hui, nous allons parler de la place que doivent occuper les chrétiens. Chrétien, prends ta place, c'est notre thème du jour. Simplement parce que les chrétiens ont tendance parfois à s'effacer, à se mettre de côté ou à se sentir même peut-être inférieurs aux autres parce que à cause peut-être de la persécution, à cause de peut-être des humiliations qu'ils ont pu vivre, mais les chrétiens doivent avoir une place et une place de choix et ont un rôle à jouer aussi dans la société. Et on va en parler aujourd'hui. Et Jonathan, tu vas répondre à une question de Maëva de France aujourd'hui. Tu vas répondre à la question « Est-ce mauvais pour un chrétien d'être compétitif dans son milieu de travail et dans ses études ?»
On va essayer.
On va essayer d'être compétitif.
On va essayer de répondre à la question d'une manière convenable et enfin... que Maïva en est pour son... Au Québec, on dit pour son rhume.
Pour son quoi?
Pour son rhume.
Ah,
c'est une expression québécoise. Donc, qu'elle en est pour... C'est
pour
ça. Qu'elle ne reste pas sur sa faim.
Voilà, qu'elle ne reste pas sur sa faim, c'est pas mal, ça. Pour son rhume, quelle expression étrange. Ah.
C'est peut-être qu'il y a plus de rhume au Québec, d'ailleurs.
C'est bien. On se demande pourquoi. Nadine, le livre de la semaine.
Déliez cet homme et laissez-le aller. C'est un livre de T.D. Jakes. Alors, chrétien, prends ta place. Homme, tu seras délié et tu seras laissé aller après avoir lu ce livre.
Tu l'as préparé longtemps, ce moment-là.
Je suis spontanée.
C'était magnifique. Aurélie, un témoignage d'un jeune homme aujourd'hui.
Je ne ferai pas comme ça. C'est l'histoire de Paul Emmanuel, lui qui avait besoin d'une place dans une entreprise. On va voir comment Dieu a ouvert les portes.
Ah oui, c'était plus soft quand même. Ça a l'air d'être un très bon témoignage. Ok, Anne, on commence avec toi dans la pensée du jour.
Oui, Dieu nous appelle à faire la différence dans notre génération. Et je vais commencer par Matthieu 5, 13 à 16, qui est un des versets que je chéris le plus dans la parole de Dieu, parce que il donne une image de moi qui est chère au cœur de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors on est la lumière du monde, le sel de la terre, et on est fait pour éclairer toute la pièce. Et même là, c'est traduit par chandelier, mais c'est un porte-lampe. C'est vraiment une lampe qui va éclairer toute la pièce. Chandelier, on a l'impression que c'est une petite bougie qui éclaire juste 10 cm. Là, c'est un porte-lampe qui va éclairer toute la pièce. Alors, on n'est pas tous appelés à être pasteurs, évangélistes, des grands docteurs de la parole de Dieu. Mais par contre, on est tous appelés à être le sel de la terre et à amener cette bonne odeur de Christ partout où le Seigneur va nous placer. On est amené à apporter les valeurs chrétiennes qui vont faire le poids, qui vont faire la différence là où on sera. Parce que c'est ça qui va donner du goût, c'est ça qui va donner toute sa saveur à la société. D'ailleurs, on le sait, les pays où il y a beaucoup de chrétiens ont une autre saveur, ont d'autres valeurs que ceux qui ont délaissé Dieu ou qui ne le connaissent pas encore. Et à l'époque actuelle, c'est vrai que les valeurs chrétiennes qui ont eu un temps, quand même, la place d'honneur, sont en grave recul. Et on le sait, la Bible nous le dit, on est dans la fin des temps et on est exactement dans cette période où on appellera bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Alors, on est à un tournant de l'histoire et c'est exactement à ce moment où les ténèbres épaississent que les chrétiens ont encore plus que jamais leur rôle à jouer pour apporter la lumière de Christ partout où ils sont. On sait que quand un grand nombre de gens se convertissent, il y a une atmosphère dans le pays qui change. Ou alors dans une entreprise, dans une école. Ça fait pas longtemps, je vous ai raconté l'histoire du réveil au Pays de Galles et on voyait que les multiples conversions ont changé complètement la saveur de la société. La société a en quelques mois changé ses valeurs fondamentales. Alors Dieu nous a tous appelés à faire briller les valeurs de Christ dans le milieu où nous nous trouvons. Alors c'est sûr, on est amené à apporter le témoignage de la bonne nouvelle pour le salut des âmes, mais aussi tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire tout ce qui accompagne le renouvellement de la personne qui s'est donnée à Christ. Parce qu'il n'y a pas que le fait qu'on soit sauvé qui change quand on est à Christ. Il y a toutes nos valeurs qu'on amène aussi à un changement. Il va y avoir un haut niveau d'intégrité, d'honnêteté, aussi une fiabilité. Quand on dit qu'on sera là à 8 heures, on est là à 8 heures, pas à 10 heures. Quand on est chrétien et qu'on respecte notre Dieu, on va donner cette saveur, on va respecter les lois locales, on va être loyaux envers nos employeurs, envers nos amis, envers nos voisins, notre famille. Et il y a dans la parole de Dieu des exemples d'hommes de Dieu qui ont amené les valeurs du royaume dans les hautes sphères du pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de les amener à l'école ou dans notre petit cercle, mais parfois, pour certains, dans des sphères de grande influence. Il y a eu Joseph, il y a eu Daniel, il y a eu Néhémie. Et ces hommes ont été utilisés par Dieu de manière puissante pour changer la société dans laquelle ils étaient, mais par le haut. Alors non seulement ils ont brillé par leur qualité personnelle, mais aussi par toutes les valeurs qui sont conformes aux standards de Dieu. Et ils ont amené aussi une faveur de Dieu avec eux. Alors je vous encourage, vous qui nous écoutez ce matin, à chercher vraiment la face de Dieu et à trouver votre propre voie là où Dieu veut que vous soyez. Et puis ça peut être dans de la politique, mais pas seulement. Souvent on pense juste politique, je vais m'engager en politique pour faire changer les lois, faire changer ci, faire changer ça. Mais je vous dis qu'un changement par le bas, c'est aussi valable qu'un changement par le haut. Mm-hmm. C'est juste que chacun a la place que Dieu lui a prévue. Ça va être au niveau économique, industriel, en éducation, si vous êtes professeur ou responsable de cursus universitaire. Alors c'est pour ça que si vous m'écoutez, que vous avez des capacités à l'école, n'hésitez pas, priez Dieu pour qu'il vous montre, parce que peut-être qu'il se servira de vous au travers de grandes études pour être dans des postes à grande responsabilité. Alors c'est ça, Dieu attend de nous que nous soyons bien à notre place, que nous amenions la lumière de Christ et toutes les valeurs du royaume avec nous.
Mmh. Amen, amen, amen. Moi j'aime beaucoup ce thème parce que je trouve que on doit relever notre tête en tant que chrétien et on a trop tendance à baisser la tête et à nous minimiser. Et oui, on est le sel de la terre, on est la lumière du monde. Et effectivement, si tu mets ta lumière sous une table, sous un lit ou sous n'importe quoi, ben la lumière n'éclairera pas. Et parfois, c'est nous-mêmes qui nous mettons sous quelque chose pour empêcher notre lumière de briller. C'est même pas les autres, c'est nous-mêmes qui le faisons parce que on se sent inférieur. Et c'est une mentalité qui doit vraiment changer. Nous avons de la valeur, nous sommes précieux, nous sommes le sel de la terre et nous avons besoin d'assaisonner partout où nous passons. T'as fait un petit lapsus dans ta pensée du jour, t'as dit que le sel, tu as parlé de la faveur du sel et non de la saveur, mais...
Oui,
mais c'est prophétique. Mais c'est faveur prophétique. Mais parce que les chrétiens ont la faveur.
C'est la faveur pour la saveur.
Et on va regarder notre verset du jour, un verset qu'on connaît assez bien dans le milieu chrétien, Deutéronome 11 au verset 24, on aime bien dire ça, hein, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous ». Et ce verset nous parle de lieux géographiques, premièrement, mais pas uniquement. Je crois que tout lieu où je vais me rendre, dans mon travail, dans une école, même dans un supermarché, à ce moment-là, non pas ce lieu ne va pas m'appartenir, hein, je ne vais pas devenir propriétaire du lieu, mais par contre, je vais pouvoir y faire quelque chose de grand qui va compter. Je vais pouvoir y déposer ma lumière et ma saveur. Et je crois vraiment que si on se réveille chaque matin avec cette conscience-là de la valeur qu'on a et du rôle qu'on a à jouer autour de nous, on peut vraiment influencer la société comme Anne le disait.
C'est ça, il y a un positionnement théologique qui est important ici. Et en fait, en analysant un petit peu, on voit qu'il y a un héritage d'une théologie catholique dans les pays francophones, je pense à la France, je pense au Québec, et que dans cette théologie, on entend souvent parler de vœux de pauvreté ou de dire ben, « on est petit troupeau ». Alors que dans le milieu anglo-saxon et protestant, on n'est pas du tout dans le même cadre. Mm-hmm. Puisqu'on est au Québec ici, dans l'histoire du Québec, eh bien, les riches, c'était les protestants qui étaient les directeurs, Et puis, ceux qui travaillaient à la chaîne et à l'usine, c'était les catholiques. Mm-hmm. Et parce qu'il y avait une question de mentalité en disant, ben, c'est notre place, on ne peut pas aller plus loin. Alors que dans le milieu protestant, et puis je parle devant un expert ici, là, je vais faire attention à ce que je dis, dans le milieu protestant, depuis dès le départ, eh bien, on est dans cette pensée que ben, si Dieu est avec vous, si l'Esprit de Dieu est avec vous, eh bien, il y a un entrepreneuriat, il y a une faveur de Dieu, il y a une inspiration divine, et que le chrétien n'est pas celui qui va rester dans un petit quelque chose, mm-hmm. mais qu'il est appelé à faire de grandes choses, y compris dans le monde du travail.
Amen. Tu parles des protestants, mais d'ailleurs, ça a été une grosse perte pour la France quand il y a eu la persécution des gens qui se convertissaient massivement au protestantisme et qui changeaient de valeur, parce qu'ils adoptaient d'autres valeurs, les valeurs du royaume de Dieu, différentes. Je ne veux pas froisser les catholiques qui nous écoutent, mais c'est vrai que dans le protestantisme, il y a eu des valeurs qui, justement, se distanciaient de cet esprit de « on est petit, on ne fait pas grand-chose ». Et c'est devenu, la plupart du temps, des grandes familles industrielles qui sont parties avec la diaspora protestante enrichir de leur savoir-faire, enrichir de toute leur expertise des pays comme l'Allemagne, la Hollande, la Suisse ou l'Afrique du Sud, par exemple, où beaucoup de les États-Unis aussi, qui ont été des pays d'accueil pour toutes ces familles protestantes mm-hmm. qui venaient de se convertir, ou qui étaient déjà protestantes pour certaines depuis le XVIe siècle. Donc c'est des familles qui avaient un autre système de valeurs qui leur permettait vraiment de sortir du lot et de venir à des positions d'influence. Il y a mm-hmm. eu des grands juristes, des grands philosophes, des médecins, mm-hmm. des grands industriels, des grands commerçants qui étaient de familles protestantes. Donc on voit que dans cette théologie-là, comme tu disais tout à l'heure, on se distancie et ça amène justement les gens à prendre des places de pouvoir.
Oui.
Non pas parce qu'ils veulent régner sur les autres pour leur gain personnel.
Non, non.
Pas peut-être certains, mais en tout cas, moi je parle des vrais
chrétiens.
C'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'influencer la société, et Dieu nous y place quand on est obéissant.
Amen.
Et j'ai quelques exemples pour vous. Mm-hmm. En préparant cette rubrique, je me suis dit, ben, même à l'époque actuelle, là, c'est bien beau. Moi, je suis toujours tournée, oh, l'histoire, c'est merveilleux. Mais maintenant, il y a déjà des chrétiens qui sont en position. Je pense qu'il y a plusieurs pays d'Afrique qui ont, dans leurs instances dirigeantes, des chrétiens fidèles. Et ça influence la façon de gérer le pays. Je pense en particulier au Burkina Faso, au Bénin. Mais il y en a d'autres, si vous m'écoutez, vous pouvez mettre dans les commentaires.
Ça m'avait épaté il y a quelques années. Bon, ça remonte peut-être à une quinzaine ou une vingtaine d'années. Dans une église au Burkina Faso, le trésorier de l'église, c'était le ministre des Finances du pays.
Ah oui.
Ah ben là, c'est intéressant.
Ah oui, c'était bien géré.
Là, c'est ça. Tu me dis qu'il n'y aura pas de faille. Voilà. Non, ça ne devrait pas, en tout cas.
Je pense à la Corée du Sud. En Corée du Sud, on sait qu'après le réveil qu'il y a eu avec Yonggi Cho, il y a beaucoup de gens dans des sphères hautes et même proches du pouvoir, des ministres, des secrétaires d'État qui sont chrétiens.
C'est super.
Et je pensais aussi, en ce moment même, le nouveau Premier ministre qui a été élu en Australie, ça fait peut-être un an de ça, Scott Morrison, est chrétien. Mmh. Il s'affiche comme chrétien, même pentecôtiste. Et d'ailleurs, il a récemment parlé à Hillsong, la grosse église de Sydney. Et lui, il défend les valeurs chrétiennes ouvertement. Mmh. Et c'est le Premier ministre, c'est lui qui décide. Il y a le Parlement aussi qui va peut-être des fois mettre des bâtons dans les roues. En tout cas,
quand même.
À la tête du pays, il y a quand même un chrétien qui s'affiche comme tel. Et d'ailleurs, j'étais chez ma fille dans le Queensland, ça fait pas longtemps, et elle me disait, mais au Queensland, il y a tellement de chrétiens que dans les lois locales, c'est interdit d'avorter. Donc les filles qui veulent avorter, elles vont ailleurs. Pour avorter, mais au Queensland, c'est encore interdit, ce qui est rarissime dans les pays occidentaux. Et puis au Canada aussi, je réfléchissais à ça, je dis en 2008, quand il y a eu la crise économique, où je vois aux États-Unis, ça a été la catastrophe. Mais nous, on avait un ministre de l'économie à l'époque qui était un homme de Dieu, qui s'appelait Jim Flaherty. Alors, je suis pas en train de faire de la politique, je dis pas pour qui je vote, mais Jim Flaherty, c'est un homme de Dieu qui était, parce qu'il est décédé peu de temps après, il était âgé, mais il a été à la barre pendant la période la plus compliquée et il cherchait le conseil de Dieu.
Amen.
Et grâce à ça, le Canada a été préservé, parce que grâce à cet homme-là, il y avait des garde-fous contre les dégringolades financières en cascade qu'il y a eu, comme aux États-Unis, par exemple. Et le Canada a été préservé économiquement parce qu'à la tête des finances, au moment du plus fort de la tempête, il y avait un homme de Dieu. Donc oui, ça sert dans les hautes sphères, et ceux qui y parviennent, mais que Dieu les bénisse. D'ailleurs, la Bible nous dit de prier pour ceux qui sont en autorité, et c'est encore mieux quand c'est des frères.
Ah bah oui,
quand c'est des sœurs.
Absolument.
Des sœurs aussi. Hein.
Des sœurs aussi. Mais oui, il y a des sœurs aussi.
Que là, je vois que des sœurs autour de moi.
t'es obligée, quoi.
Mais par contre, j'aimerais peut-être mettre un petit bémol, parce qu'il y a, certainement des gens qui nous écoutent et qui écoutent l'actualité, et malheureusement, il y en a qui s'affichent comme chrétiens et qui sont de piètres dirigeants, et qui nuisent beaucoup à l'évangile. Sans dire de nom, mais vous allez savoir de qui je parle, dans les années 80, début 90, en tout cas, il y avait aux États-Unis quelqu'un qui s'affichait ouvertement comme chrétien, mais qui par bien des égards s'est ridiculisé, et par là même ridiculisé la cause de Christ. En ce moment même, au Brésil, il y a un chef d'État qui s'affiche comme chrétien, qui a été massivement élu par des chrétiens évangéliques, et qui malheureusement prend des décisions politiques et de gestion de son pays qui sont, à mon sens, catastrophique, et qui donne une mauvaise image du christianisme et puis des valeurs de Christ. Alors, c'est une responsabilité aussi. Ça, arriver dans des positions de pouvoir en étant chrétien et en s'affichant comme tel, il y a une responsabilité qui va avec. Il y a du pouvoir, mais il y a toute la responsabilité qui va au-delà de notre propre charge, qui va aussi pour la réputation du royaume.
Tout à fait. Mais c'est vrai que parfois, on a cette mentalité que justement, du fait qu'on est chrétien, ben, on n'aura pas besoin de faire d'études, par exemple. Moi, je vais prêcher l'évangile, je vais gagner des âmes. Certains sont appelés à ça, mais d'autres sont appelés à aller en politique, par exemple, à avoir des places dans des entreprises importantes pour être des bons patrons au-dessus de leurs employés et pour apporter un témoignage, justement, de ce qu'est le vrai évangile. Certains sont appelés à être médecins, à être chercheurs, on en parlait avant l'émission. Hein. On croit vraiment qu'on peut être inspiré du Saint-Esprit en tant que chercheur, en tant que physicien ou autre. On a des rôles à jouer, et le fait d'être avec le Saint-Esprit ne nous empêche pas d'atteindre ces fonctions, mais au contraire nous permet de les remplir de la bonne façon et d'être vraiment des hommes et des femmes qui sont utiles pour le royaume de Dieu dans cette société.
Exactement. Les chrétiens, en fait, ils doivent... Dieu nous a appelés vraiment à exercer notre rôle sur la terre. Et on doit réaliser que sur la terre, il y a différentes sphères d'influence. Et il faut pouvoir justement occuper ces sphères d'influence si on veut exercer ce rôle-là. Parce que chaque fois qu'on va laisser d'autres personnes le faire qui ne sont pas chrétiennes, mais quelque part, le peuple va subir, en fait, toutes ces actions-là.
C'est ça.
Et nous, vraiment, en tant que chrétiens, on doit le réaliser, et vraiment toutes les sphères. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la société. Il y a les arts, il y a, je sais pas, le cinéma, la culture, il y a tellement de sphères qui doivent être couvertes. Mmh. Et tout le monde ne sera pas, tout le monde n'est pas comme pasteur dans une église. Donc, il va falloir que les chrétiens se démarquent. Il va falloir que les chrétiens se démarquent dans toutes ces sphères aussi de la société. Et c'est comme ça qu'on va briller, comme Anne disait dans la pensée. C'est que Dieu n'a pas dit briller seulement sur le plan spirituel. Et puis, en politique, ne brillez pas. Dans les arts, ne brillez pas.
Ailleurs,
voilà, ne brillez pas. Il nous appelle vraiment à briller, mais à tous les niveaux. Donc, c'est maintenant à nous de nous placer devant le Seigneur et de dire, mais Seigneur, voici ma vie, mais voilà, peut-être moi, je suis plus intéressée, je sais pas pourquoi je pense beaucoup aux arts, je suis plus intéressée à ça. Seigneur, comment je peux briller pour ta gloire? Parce que c'est ça le but, de prendre sa place. C'est pas juste pour occuper une fonction,
mais
parce
non.
que voilà, on doit devenir quelqu'un d'important. C'est vraiment, Seigneur, comment est-ce que je peux manifester ta gloire dans ce domaine-là et accepter de prendre la place que le Seigneur va nous donner, donc accepter la responsabilité qui vient avec, accepter toutes les choses qui découlent en fait de cet appel qu'on aura reçu du Seigneur.
Ouais. Et quand on échange ici, un mot qui revient souvent, c'est la mentalité. Et je crois qu'en tant que chrétien, nous devons aussi amener notre mentalité à faire ce changement de mentalité. D'ailleurs, la Bible nous demande de le faire pour pouvoir épouser vraiment la vraie mentalité de Christ et non la mentalité que nous pensons être celle qui doit être faite. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont dit, ben La vie éternelle est tellement plus longue. Alors ici, ce n'est que je suis que passager sur la terre. Et passager sur la terre, ils ont associé ça à ne rien faire parce qu'on n'est que de passage sur la terre. Oui, on est de passage sur la terre. Oui, la vie sur la terre va s'arrêter à un moment donné. L'éternité est beaucoup plus glorieuse et beaucoup plus longue. Mais ça ne veut pas dire que pendant que nous sommes sur la terre, nous devons être inefficaces, nous devons être dormants, nous devons être de côté par rapport à ce qui se passe dans la société. Et je crois que ça, c'est déjà cette mentalité-là doit vraiment être changée. Et la deuxième des choses, c'est quand tu parles de, par exemple, des personnes qui sont appelées au ministère en se disant, ben moi je fais rien parce que je suis appelée, ou bien je préfère être appelée que de faire. Mais chaque personne doit faire ce qu'il a à faire selon ce que Dieu lui a donné. Et aller au ministère, ce n'est pas un échappatoire à la vie de tous les jours. Si tu vas dans le ministère, c'est parce que tu es réellement appelée au ministère. Et les gens qui sont réellement appelés au ministère vont se rendre compte que c'est du travail, c'est des sacrifices. On ne rentre pas au ministère parce qu'on n'a pas envie de faire des longues études. Non, parce que même quand on est dans le ministère, oui, le Saint-Esprit nous inspire, mais nous allons lire des commentaires bibliques, nous allons fouiller la parole, nous allons creuser, nous allons nous asseoir devant notre Bible et chercher le conseil de Dieu. Donc, c'est pour dire que faites ce que vous avez à faire et travailler, c'est aussi adorer le Seigneur. Travailler, c'est aussi dire à Dieu, tu m'as rempli et voilà ce que je fais de ce que tu m'as donné. Travailler, ce n'est pas un fardeau ou comme certaines personnes peuvent le penser, être à côté de ce qui est plus important, mais travailler, c'est aussi adorer Dieu. Et nous devons travailler, nous devons bien travailler. Et lorsque nous travaillons, lorsque nous sommes chrétiens, comme Anne l'a dit dans sa pensée, que ce soit des personnes qui sont dans les en bas, en guillemets, mais il y a quand même une influence. Ça fait toute la différence. Quand tu rentres dans un milieu de travail et qu'il y a une personne qui est chrétienne, je t'assure que si ta lumière, elle brille réellement, les gens à côté de toi, ils vont remarquer quelque chose de différent. Ils sauront peut-être pas mettre le mot dessus, mais ils vont vouloir s'arrêter à ton bureau pour te parler. Ils vont sentir qu'il y a quelque chose. Et après, il y aura des opportunités où tu pourras les influencer directement par une parole que Dieu va te donner. Mais juste ta présence là va juste faire que la lumière va s'allumer et il y a des choses qui vont tomber. Et vraiment, j'encourage les chrétiens à prendre leur place. Le titre dit « Chrétien, prends ta place », c'est à l'impératif. C'est pas « Chrétien, s'il te plaît », c'est « Prends ta place ». Tu as une place à prendre et vraiment que Dieu te change ta mentalité pour que tu puisses la prendre de la bonne façon.
C'est ça, et le message du royaume, la prédication de l'évangile, ça change des vies d'un point de vue spirituel et éternel, mais il y a aussi un concept de justice sociale. Et il ne faut pas simplement dire ben, « on est là juste pour apporter le salut », mais si la veuve et l'orphelin sont opprimés, on doit les défendre.
Exactement.
Mais je vais faire référence à Luther, enfin au roi, Martin Luther King. Martin Luther King, il ne s'est pas dit « moi, je suis juste pasteur et je suis là pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile dans mon église ». Mais à un moment donné, il s'est levé pour une cause et il s'est combattu pour une cause. « I have a dream ». Il y a une autre phrase après, mais bon.
J'aime bien, t'as la première.
J'ai déjà les premiers mots.
C'était magnifique.
Mais en tout cas, il y a des pasteurs comme ça. Bon, il y a lui, mais il y en a d'autres aussi qui ont fait la différence dans leur pays d'un point de vue justice sociale. Mm-hmm. Et c'est vrai pour ces pasteurs-là, mais c'est vrai dans votre entreprise. Vous pouvez faire la différence et vous êtes appelés à faire la différence.
Amen, amen. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense à Joseph même. Hein. Joseph, il a brillé partout où il était. Il a vraiment brillé et il a réussi à grimper les échelons à chaque fois, mais pas en écrasant les autres, mais justement parce qu'il était juste, il était bon, il était droit et honnête, et il était travailleur aussi. Jonathan, on va voir justement comment il faut se comporter dans nos études, dans notre milieu de travail, comment on gravit les échelons. Question de Maëva de France dans notre rubrique Pasteur, j'ai une question. Est-ce mauvais pour un chrétien d'être compétitif dans son milieu de travail et dans ses études?
Oui et non.
Ah. Voilà.
Comme ça, c'est fait. En fait, tout dépend de ce que l'on met derrière ce mot compétitif. Parce que si on est dans un mode de compétition qui est empreint d'orgueil, en disant « je veux être le meilleur, je suis le meilleur, les autres sont nuls, moi je suis le meilleur », là, il y a un problème.
Ah, oui.
Parce que le chrétien n'est pas appelé à écraser les autres, mais au contraire, à voir les autres comme étant supérieurs à lui-même, et plus à élever les autres plutôt qu'à les rabaisser et se mettre dans une position de dire « moi, je suis au-dessus, vous êtes tous des minables, moi, je suis le meilleur ». Donc, dans ce sens-là, être compétitif, c'est mauvais.
Oui.
Maintenant, ceci étant dit, si on remplace compétitif par excellence, là, oui, nous sommes appelés à être dans l'excellence. Et ce serait normal et légitime que si dans une classe, à l'université, au collège ou à l'école, il y a un chrétien un seul chrétien dans toute la classe, que ce soit lui le premier de la classe.
Je suis d'accord.
Et dans ce sens-là, bon, on va dire, est-ce que c'est compétitif ? Ben disons, parce qu'il y a une faveur de Dieu. Maintenant, c'est pas « Seigneur, parce que je suis chrétien, il faut que j'écrase les autres et que je leur montre qu'ils sont tous pervers, pécheurs et nuls, mais que moi, j'ai la faveur de Dieu. » Donc là, il y a un problème. Mais maintenant, c'est quelque chose, en fait, qui doit venir avec humilité. C'est pas de dire je veux être le premier et le meilleur, mais c'est de dire Seigneur, je veux refléter ta gloire et que ton nom soit glorifié au travers de ma vie. Et c'est sûr qu'avec la faveur de Dieu, ben c'est normal. Et il faut pas considérer ça comme quelque chose d'illogique, d'anormal ou d'extraordinaire. Non, c'est normal que le chrétien soit, eh bien, en avant parce qu'il a quelque chose de plus. Amen. Daniel était plus intelligent que tous les autres parce qu'il avait la faveur de Dieu sur lui et même les autres. Puis bon, on parle ici de la sagesse des Macédoniens. Enfin, je veux dire, il y avait une grande sagesse ici, mais c'est Daniel, qui était le petit jeune qui venait d'Israël, on dit c'est qui celui-là ? Il mange même pas de viande. Bon, en tout cas, ce Daniel-là était plus intelligent parce que il avait un cerveau plus gros que les autres, mais parce que Dieu était avec lui. Hein. C'est bien précisé, heureusement. Puis ça nous garde dans l'humilité. Oui. Alors que c'est vrai dans le milieu éducatif, dans le milieu scolaire, mais c'est vrai aussi dans le milieu du travail. Si un chef d'entreprise est chrétien, ce serait normal que son entreprise soit leader. Oui. Je pense à des chrétiens en Suisse qui sont leaders dans leur domaine parce qu'ils ont une faveur de Dieu avec eux et c'est normal. Mmh. Et maintenant, c'est pas de dire, Seigneur, parce que je suis chrétien, je dois être le premier et je vais faire une boisson qui va dépasser Coca-Cola. Donc, on n'est peut-être pas... Je veux dire, il y a une question de problème d'ambition ici, mais par contre, il faut préparer notre esprit et notre mentalité à dire c'est normal que en tant que chrétien, eh bien les choses marchent mieux parce que Dieu est avec nous et c'est à la gloire de Dieu, c'est pour rendre témoignage aux autres. Alors oui, c'est bon pour un chrétien d'être compétitif dans le sens de dire ben je veux pas être en disant là dans cette mentalité de dire on est petit, il faut pas faire trop de bruit, il faut pas j'ai un groupe de musique mais bon on a vendu 5 albums, c'est bien ou je suis dans la science ou dans tel et tel domaine et je vais pas plus loin. Non, le chrétien doit aspirer à influencer et à prendre sa place comme on le dit dans cette émission là et c'est normal que le chrétien bien soit à la tête, mais maintenant non pas parce qu'il s'y est mis lui-même en écrasant les autres, mais parce que c'est Dieu qui le pousse et parce qu'il y a l'esprit de Dieu et la faveur de Dieu qui le met en haut. Et c'est ça toute la différence et l'interprétation ici de ce mot compétitif. C'est bien d'être en tête, c'est bien d'être en premier. Maintenant, on comprend que tout le monde ne peut pas être en tête aussi. À un moment donné, si vous avez 5 chrétiens en disant « c'est moi en tête, non, c'est moi ». Bon, à un moment donné, on est en équipe ici, parce que ce n'est pas la gloire du chrétien qui est en cause, c'est la gloire de Dieu.
Oui.
Et donc, si quelqu'un d'autre est devant vous et puis qui rend gloire à Dieu en étant devant vous, eh bien, vous êtes content, parce que c'est Dieu qui est glorifié dans cette situation. Mais si un non-chrétien, ben, quelque part, prend la gloire et puis le chrétien est derrière et puis rame en disant « on va dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. » Alors là, oui, c'est normal de chercher à avoir une position de tête.
Amen. La tête et non la queue.
Amen.
T'es l'habitude de le dire,
Oui, mais on refera un punk là-dessus.
Oh, un pasteur, j'ai une question.
Un pasteur, j'ai une question.
Tu nous amènes des punks sur le plateau.
Ouais, c'est on refera un pasteur, j'ai une question. Mais c'est tout à fait ça.
Alors, si Jonathan vous a soumis une question, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurjai-une-question@emcitv.com parce qu'apparemment, il y a une petite subtilité dans ce verset que Jonathan pourra nous expliquer dans un prochain Pasteur, j'ai une question. Nous allons maintenant découvrir notre livre de la semaine.
Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com.
Alors, cette semaine, le livre est de T.D. Jakes, « Délier cet homme et laissez-le aller ». T.D. Jakes est un homme de Dieu qui est très, très, très connu, évidemment, dans le monde anglophone. Un pasteur vraiment de renom qui écrit énormément de livres et qui est vraiment un chrétien qui a pris sa place parce qu'il n'est pas resté confiné à l'église, mais il a même fait des films, il avait même une émission de télé. Il a vraiment beaucoup, il brille énormément au niveau des arts aux États-Unis et à travers le monde. Et il a écrit ce livre « Délier cet homme et laissez-le aller ». Si ça vous dit quelque chose, ça vient du verset par rapport à Lazare. Et parce qu'en fait, c'est un livre qui est dédié aux hommes. Et c'est quand même agréable d'avoir un livre que pour les hommes.
C'est vraiment rare.
C'est très rare. Mm-hmm. On écrit souvent pour les femmes ou pour le chrétien en général. Mais pour les hommes, parce que vraiment, surtout pour les hommes, parce qu'il dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont beaucoup de blessures, en fait, qui les maintiennent captifs, en fait, et qui font qu'ils ne s'épanouissent pas à ce que Dieu les appelle réellement, parce qu'ils refont des choses, ils refont des schémas, parce qu'ils ont des blessures d'un père absent ou des blessures de ce que la société les a projetés comme l'image qu'un homme doit avoir. Donc, ils ont un comportement qui s'adapte à ce que la société attend d'eux, que ce soit l'infidélité chronique, que ce soit la vivoté, toutes ces choses-là qui sont des comportements nocifs, mais que la société a dit, ben, t'es un homme, tu as le droit de faire ce que tu veux et tu vis un peu à la légère. Et du coup, ces hommes-là, ils sont prisonniers et ne sont pas capables de prendre leur place en tant que chrétiens parce qu'ils ont toutes ces blessures-là. Et donc, il vient vraiment parler. C'est comme, en fait, le livre, quand je l'ai lu, c'était un peu comme une prédication. Quand tu le lis, t'as l'impression d'entendre T.D. Jakes prêcher. Si jamais vous l'avez déjà entendu, c'est très très agréable à l'entendre prêcher parce qu'il prend des textes qu'on a déjà lus plein de fois, il te sort des richesses, des vérités vraiment profondes. Et il parle vraiment de l'importance aussi en tant qu'homme de trouver un père spirituel, de l'importance en tant qu'homme de vraiment attraper le manteau comme un peu Élisée l'a fait, de l'importance en tant qu'homme de pouvoir sortir un peu de tout ce qui est le carcan que vraiment qui nous a maintenu captifs pour pouvoir prendre notre place. C'est un livre, je crois, qui vient beaucoup aider les gens au niveau de blessures émotionnelles pour pouvoir vraiment prendre leur place en tant que chrétien. Qui vient beaucoup aider les hommes par rapport à des choses qu'ils ont, qui ne sont pas capables d'en parler parce que des fois l'homme va tendance encore une fois encore quelque chose que la société a imposé à l'homme de tout garder en lui, de pas parler de ses émotions correctement, etc. Toutes ces choses là qui l'ont gardé captif. Et vraiment, ce livre est un livre vraiment pour vous messieurs, pour comprendre dans vos comportements qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui est de l'ennemi, pour trouver qu'est-ce que l'ivraie que l'ennemi a planté dans vos cœurs et d'arracher cet ivraie-là et de pouvoir vraiment entrer dans votre destinée, entrer dans ce que Dieu a pour vous. Donc, il dit ici que c'est un livre qui a été écrit pour les hommes mais que toutes les femmes devraient lire. C'est ce que j'ai fait.
Pour comprendre les hommes.
Pour comprendre leur monsieur. Pour comprendre les hommes et pour les aider. Mm-hmm. Et vraiment, il est disponible sur emciboutique.com. Et comme j'ai dit, c'est rare d'avoir un livre que pour les messieurs et je trouve que c'est vraiment très important. Et en plus, TDJ, il a tellement une grande expérience, il parle avec, oui, la parole de Dieu, mais avec tout ce qu'il a vu aussi dans son ministère. Donc, il y a plein d'exemples pratiques et qui vont vraiment venir nous toucher. Moi, je le lisais et j'étais assise au salon et puis avec mon mari qui regardait un match à la télé et je l'interrompais à tout bout de champ pour lui lire une phrase parce que je trouvais que c'était tellement pertinent. Donc, je vous
avais...
il s'est pas plaint, il m'a laissé rester assis à côté de lui. Alors, je vous recommande ce livre qui est disponible sur emciboutique.com.
Merci. Merci Nadine. Alors mesdames, si vous voulez l'offrir à votre mari, soyez quand même sages. Hein, tiens chérie, je pense que t'en as vraiment besoin. Ouais, ça c'est pour toi. Soyez sages.
Ouais, c'est bientôt, peut-être un petit cadeau.
Exactement, ouais. Mais je pense que c'est un cadeau à offrir oui, à nos maris, à nos frères, à nos pères. C'est effectivement un très bon cadeau. Merci Nadine. Nous continuons avec la rubrique témoignage. Donc Aurélie, on a un témoignage d'un jeune homme, on reste dans le domaine des hommes pour cette fin d'émission.
Oui, c'est vrai que les hommes ne nous envoient pas souvent des témoignages, donc quand on en a, c'est bien.
On est content. C'est bien
de pouvoir mettre en valeur. Et aujourd'hui, c'est Paul Emmanuel de France, en fait, qui nous raconte son histoire. Il nous a fait une petite vidéo qu'on peut écouter.
Bonjour, je me nomme Paul Emmanuel Bess. Je suis étudiant dans le domaine de la comptabilité et gestion au niveau de la France. Je profite de cette vidéo pour rendre gloire à Dieu et remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans la prière de longue de près. Remercier également EMC TV qui, par ses enseignements puissants, sont une source de bénédiction pour la francophonie et le reste du monde. Oui, je rends gloire à Dieu pour son action dans le domaine de mes études. Pour concilier théorie et pratique, j'ai opté pour une alternance. Et durant cette période, l'ennemi m'a assailli avec des mauvaises pensées mettant en avant mon inexpérience. Cela ne m'a pas arrêté. Après avoir postulé dans plusieurs entreprises, tous n'ont pas répondu positivement, mais cela ne m'a pas découragé. Je me suis tourné vers le Seigneur et en recherchant véritablement sa face une direction. Et durant l'émission EMC TV, Prière inspirée, le pasteur Jérémy Soudril va dire ceci. Dieu veut te bénir, Dieu veut agir dans ta vie, le Seigneur veut te donner ce que tu veux. Il est un père, tu peux demander tout ce que tu veux. C'était dans le même cadre de 8000 partenaires et je dis à Dieu, Père, bénis-moi avec cette alternance, je veux faire partie de cette alternance. Aujourd'hui, j'ai signé dans une entreprise et j'ai commencé mon alternance et je rends gloire à Dieu pour cela et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Cool.
Oui, gloire à Dieu. Derrière des histoires comme ça, ça a l'air simple, mais vraiment, il y a des gens qui cherchent des stages en France depuis des années et ils n'arrivent pas à trouver. Et là, on écoute 1:30, on se dit, ben, on peut se dire que c'est facile, mais c'est vraiment des situations parfois compliquées. Mm-hmm. Et moi, ce que j'ai retenu dans ce témoignage que j'aimerais vous partager aussi, c'est que pour occuper cette place dans cette entreprise qu'il devait occuper, en fait, pour pouvoir aller plus loin dans ses études, ben, Paul Emmanuel a dû passer par un combat dans ses pensées. Il dit que tout le temps, mais dans ses pensées, il y a Satan qui est en train de lui rappeler qu'il n'a pas d'expérience, etc. Mais il a dû dépasser ces choses-là, en fait. Mmh. Il a dû persévérer aussi parce qu'il a reçu plusieurs refus, mais il a continué d'avancer, il a continué et il a cherché une direction du Seigneur. Et c'est alors qu'il cherchait cette direction qu'il est tombé sur l'émission Prière inspirée avec Jérémy. Et là, il a reçu cette parole qui lui a dit « Mais Dieu est ton Père ». Et il est prêt à te donner ce que tu veux. Mmh. Et c'est vraiment sur cette base, avec cette parole, qu'il est retourné dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cette alternance pour que je puisse continuer. Et on voit comment les portes se sont ouvertes. Et il y a une petite phrase qu'il a dit ici. Il dit qu'il savait toujours que Dieu est son Père et que Dieu va lui donner cette alternance. Et il a passé des entretiens et il dit, j'avoue, il y avait beaucoup de demandes pour ce poste d'assistant comptable pour étudiants en apprentissage. Mais sur les centaines de propositions, certainement meilleures les unes que les autres, c'est moi qui ai été retenue. Donc, Dieu a écouté sa prière et c'est ce que Dieu fait, en fait. Alors qu'on choisit tout simplement de nous ouvrir à lui. Et moi, j'encourage toutes les personnes. Aujourd'hui, on a parlé de occuper sa place. Mm-hmm. Il y a des personnes qui se sentent tellement limitées dans beaucoup de domaines et qui ont, comme Paul Emmanuel, besoin d'aller vers Dieu pour dire, Seigneur, je veux occuper ma place dans ce domaine. Je veux pas me laisser voler ma place par mes limitations personnelles, par les pensées de l'ennemi, ou alors juste parce que les personnes en face de moi ont jugé que j'étais incapable. Mm-hmm. Je veux occuper ma place, mais ces personnes, je les invite vraiment à prendre ce temps, comme Paul Emmanuel l'a fait dans la prière, à dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu es mon Père, je sais que tu veux me donner le meilleur et je choisis d'occuper ma place et d'y aller et de postuler, ne pas avoir peur, de faire ce qu'il faut faire pour occuper cette place. Et Dieu est fidèle.
Amen, amen. Et c'est pas parce que on a parlé beaucoup de place de prestige, entre guillemets, de prestige dans le sens où on a une influence à jouer, mais on peut avoir une influence à jouer dans plein de domaines. Oui. Et je veux juste être sûre que tout ait été bien compris. Wow. C'est qu'il s'agit pas qu'on soit tous des grands chefs d'entreprise, de multinationales. C'est pas ça. Dans n'importe quel domaine, et c'est à notre place, justement, comme tu le disais, Aurélie, dans n'importe quel domaine, on peut avoir ce rôle d'influence qui est vraiment important. En étant caissière dans un magasin, en étant, responsable dans une usine, usine de différentes choses, de conception de meubles, peu importe, dans tous les domaines en fait. Donc il s'agit pas là de dire retournez tous aux études et devenez tous des grands ingénieurs, c'est pas ça. C'est que peu importe dans la place où Dieu vous a placé, là où vous avez été mis, mais ne vous limitez pas. Comme Paul Emmanuel aurait pu se limiter en disant non, j'ai pas d'expérience, ça sert à rien que je me lance là-dedans, je vais me contenter du minimum. Non, si vous avez quelque chose sur votre cœur, vous pensez que Dieu vous appelle à quelque chose, allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur, Dieu est avec vous, il va vous donner la capacité, il va vous donner les talents, les compétences dont vous avez besoin pour réussir dans votre domaine. Et le témoignage de Paul Emmanuel est super encourageant, je trouve. Et je veux vous encourager, si vous avez d'autres témoignages à nous apporter, vous pouvez nous écrire, allez sur emcitv.com/témoignage pour remplir le formulaire et nous envoyer votre témoignage. C'est pour nous toujours un plaisir de découvrir ce que Dieu fait dans votre vie. Et pour terminer cette émission, j'aimerais juste encourager les parents qui nous écoutent. Vous avez des enfants et j'aimerais vous encourager non pas à les pousser, à les forcer à prendre des couloirs qui ne sont pas les leurs, pas du tout, mais à leur rappeler la valeur qu'ils ont, qu'ils sont en tant qu'enfants de Dieu, et puis à les encourager à toujours être dans l'excellence, à toujours faire de leur mieux, à toujours vraiment voir loin, voir grand, croire grand, parce qu'ils ont un grand Dieu avec eux. Et parfois, en tant que parents, on peut vraiment avoir un rôle qui va au contraire freiner nos enfants, les freiner dans leur destinée, les freiner dans leurs études, mais encouragez-les, économisez déjà pour financer leurs études prochaines. Soyez vraiment des parents qui vont être prêts à encourager leurs enfants, et à vos enfants vous partagent peut-être des rêves qui vous paraissent complètement fous, mais qui sait si c'est pas Dieu qui leur a mis dans leur cœur. Donc ne les freinez pas, ne les découragez pas, mais au contraire, encouragez-les à aller de l'avant puis à rentrer dans leur destinée. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Une fausse doctrine peut-elle bloquer la guérison divine ?» Nous aurons une invitée avec nous, Audrey Mac, qui sera avec nous pour deux émissions cette semaine. Et on va faire deux émissions suivies sur la guérison divine. Vraiment, c'est des émissions qui sont très importantes et je crois qu'ils vont changer beaucoup de choses dans nos vies, dans vos vies. Alors si vous êtes malade, si vous connaissez quelqu'un qui est malade ou vous êtes en bonne santé mais vous ne voulez pas tomber malade, regardez les émissions de demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.